Cent ans de solitude de Gabriel García Márquez, 13e partie. Dans le vertige des toutes dernières années, Ursula n'avait disposé que de très rares moments de répit pour s'occuper de la formation papale de José Arcadio, quand on s'avisa qu'il fallait préparer en toute hâte son départ pour le séminaire. Sa sœur, Mémé, partagée entre la raideur de Fernanda et l'amertume d'Amaranta, arriva presque en même temps à l'âge auquel on avait prévu de l'envoyer en pension chez les sœurs, où on en ferait d'elle une virtuose du clavecin. Ursula se sentait en proie à de graves incertitudes sur l'efficacité des méthodes pour lesquelles on avait adouci et désarmé l'esprit de l'apprenti souverain pontife si languide, mais elle n'en imputait pas la faute à sa vacillante vieillesse, non plus qu'aux épaisses nuées qui lui laissaient à peine entrevoir le contour des objets, mais à quelque chose qu'elle-même ne parvenait pas à définir en clair et qu'elle imaginait confusément comme une détérioration progressive du temps. Les années de maintenant ne sont plus comme dans le temps, avait-elle coutume de dire, sentant la réalité quotidienne lui échapper des mains. Autrefois, pensait-elle, les enfants tardaient beaucoup à grandir. Il n'était que de se souvenir du temps qu'il avait fallu pour que José Arcadio l'aîné s'en allât avec les gitans et de tout ce qui s'était passé avant qu'il ne revînt peinturluré comme une couleuvre et s'exprimant comme un astronome, et des événements qui s'étaient produits à la maison avant qu'Amaranta et Arcadio n'oubliassent la langue des Indiens pour apprendre à parler l'espagnol. Il n'était que de revoir toutes ces journées de soleil et ces nuits à la belle étoile qu'avait supporté le pauvre José Arcadio Buendía sous son châtaignier, et tout le temps qu'il avait fallu pleurer sa mort avant qu'on amenât le colonel Aureliano Buendía, moribond, lequel, au sortir de tant de guerres et après qu'on eût tant souffert pour lui, n'avait pas encore atteint la cinquantaine. Jadis, après toute une journée passée à confectionner de petits animaux en caramel, il lui restait encore du temps pour s'occuper des enfants et voir dans le blanc de leurs yeux s'ils avaient besoin d'une potion à l'huile de ricin. À présent, au contraire. Alors qu'elle n'avait rien à faire et qu'elle déambulait du matin au soir en portant José Arcadio à califourchon sur sa hanche, cette baisse de qualité du temps l'obligeait à laisser les choses à moitié. La vérité était qu'Ursula s'entêtait à ne pas vouloir vieillir alors même qu'elle ne se rappelait plus son âge, et qu'elle était toujours là où il ne fallait pas, essayant de fourrer son nez partout, importunant les étrangers à force de leur demander s'ils n'avaient pas laissé en garde à la maison du temps de la guerre, en attendant la fin de la pluie, un Saint José en plâtre. Nul ne peut dire de science certaine quand elle commença à perdre la vue. Jusque dans les dernières années de sa vie, alors qu'elle ne pouvait plus sortir de son lit, elle avait l'air tout simplement vaincue par la décrépitude, mais personne n'avait découvert qu'elle était devenue complètement aveugle. Elle-même s'en était rendue compte bien avant la naissance de José Arcadio. Au début, elle croyait qu'il ne s'agissait que d'un affaiblissement passager, et elle prenait en cachette du sirop de moelle, où elle se mettait du miel d'abeille dans les yeux. Mais elle ne tarda pas à être convaincue qu'elle s'enfonçait irrémédiablement dans les ténèbres, à tel point qu'elle n'eut jamais une notion très exacte de ce que fut l'invention de la lumière électrique, car lorsqu'on installa les premières ampoules, elle ne pouvait qu'en deviner vaguement l'éclat. Elle n'en dit rien à personne, car c'eût été donner à reconnaître publiquement qu'elle était devenue inutile. Elle se lança avec obstination dans un discret apprentissage de la distance de chaque chose et de la voix de chacun, afin de continuer à voir de mémoire ce que ne lui permettait plus de distinguer les nuées opaques de la cataracte. Plus tard, elle devait découvrir le secours inattendu des odeurs qu'elle se mit à percevoir dans les ténèbres avec une force beaucoup plus convaincante que les volumes et les couleurs, et qui la sauvèrent définitivement de la honte qu'il y aurait eu à renoncer. Dans l'obscurité de sa chambre, elle était capable d'enfiler une aiguille et de faire une boutonnière, et elle savait quand le lait sur le feu était sur le point de se sauver. Elle acquit une connaissance si infaillible de l'emplacement de chaque chose qu'elle en oubliait parfois elle-même sa cécité. un jour. Fernanda ameuta toute la maison parce qu'elle avait perdu son anneau de mariage, et ce fut Ursula qui le découvrit, sur une étagère, dans la chambre des enfants. Tout naturellement, tandis que les autres allaient et venaient de tous côtés sans faire attention, elle les surveillait à l'aide des quatre sens qui lui restaient, afin que nul ne la prît en défaut, et elle put découvrir, au bout d'un certain temps, que chaque membre de la famille répétait quotidiennement, sans s'en rendre compte, le même itinéraire, les mêmes gestes et presque les mêmes paroles à heure fixe. Ce n'est que lorsqu'il s'écartait de cette routine réglée dans le moindre détail qu'il courait le risque d'égarer quelque chose. Si bien qu'à entendre Fernanda se lamenter sur la perte de son alliance, Ursula n'eut qu'à se rappeler la seule variante dans ses faits et gestes de ce jour-là, à savoir qu'elle était allée exposer au soleil les nattes où dormaient les enfants parce que Mémé, la nuit précédente, avait découvert une punaise dans la sienne. Comme les enfants assistaient au nettoyage, Ursula pensa que Fernanda avait dû poser son alliance au seul endroit qu'il ne pouvait atteindre, sur l'étagère. Fernanda, au contraire, ne la chercha que sur le trajet de ses allées et venues quotidiennes, sans savoir que la recherche des objets perdus est entravée par la routine, les habitudes qui font qu'on a tant de mal à les retrouver. L'éducation de José Arcadio aida Ursula dans cette tâche épuisante qui consistait pour elle à se maintenir au courant des moindres changements intérieurs à la maison. Quand elle se rendait compte qu'Amaranta était en train d'habiller les statues des saints de la chambre à coucher, elle feignait d'enseigner à l'enfant les différences entre les couleurs. « Voyons voir, » lui disait-elle. « Dis-moi un peu de quelle couleur est vêtu Saint Raphaël l'Archange ?» Ainsi l'enfant lui fournissait-il le renseignement dont la privaient ses yeux, et bien avant qu'il ne partît pour le séminaire, Ursula était devenue capable de distinguer en palpant le tissu les différentes couleurs des vêtements des saints. Parfois se produisaient des incidents imprévus. Un après-midi, Amaranta brodait sous la véranda au bégonia quand Ursula vint buter contre elle. « Oh, pour l'amour de Dieu !» protesta Amaranta. « Faites attention où vous allez !»«
C'est toi qui n'es pas assise à ta place !» lui répondit Ursula.
Pour elle, cela ne faisait aucun doute. Ce jour-là, elle commença à se rendre compte d'une chose dont personne n'avait eu vent jusque-là. À savoir qu'au fil des mois, le soleil changeait imperceptiblement de position et que ceux qui s'installaient sous la véranda devaient, eux aussi, changer de place, peu à peu, et sans même s'en apercevoir. Dès lors, Ursula n'avait qu'à se rappeler quel jour et en quel mois on était pour connaître l'emplacement exact où était assise Amaranta. Bien que le tremblement de ses mains fût de plus en plus perceptible et qu'elle pût à peine se traîner, jamais on ne vit sa petite figure toute rabougrie en autant d'endroits à la fois. Elle était presque aussi active et empressée qu'à l'époque où elle avait toute la maison sur les bras. Pourtant, dans l'impénétrable solitude de son arrière-vieillesse, elle bénéficia d'une telle clairvoyance pour examiner jusqu'aux plus insignifiantes péripéties de l'histoire de la famille que, pour la première fois, elle put faire toute la lumière sur des vérités que ses occupations d'autrefois l'avaient empêchée de bien voir. À l'époque où l'on préparait le départ de José Arcadio pour le séminaire, elle avait déjà effectué une récapitulation infinitésimale de ce qui avait été la vie de la maison depuis la fondation de Macondo, et avait complètement révisé l'opinion que, depuis toujours, elle s'était faite sur ses descendants. Elle se rendit compte que le colonel Aureliano Buendía ne s'était pas endurci à la guerre au point de perdre tout amour de la famille, comme elle le croyait jadis, mais qu'il n'avait jamais aimé personne. Pas même Remedios, son épouse, ni les innombrables femmes d'une nuit qui étaient passées dans sa vie, et ses fils encore bien moins. Elle crut deviner que ce n'était pas par idéalisme, comme tout le monde pensait, qu'il avait livré tant de combats, ni par fatigue, comme pensait tout le monde, qu'il avait renoncé à la victoire imminente, mais qu'il avait gagné et perdu pour le même motif, par pur péché d'orgueil. Elle en arriva à la conclusion que ce fils pour qui elle aurait donné sa vie n'était qu'un être incapable d'amour.
Une nuit qu'elle le portait encore dans son ventre, elle l'avait entendu pleurer. C'était une plainte si distincte que José Arcadio Buendía, qui dormait à côté d'elle, se réveilla et se réjouit à l'idée que l'enfant allait être ventriloque. Il se trouva d'autres gens pour prédire qu'il serait devin. Elle-même, en revanche, fut prise de tremblement, convaincue que ce profond grognement était le premier indice de la terrible queue de cochon, et elle pria Dieu qu'il lui laissât mourir ce rejeton dans le ventre. Mais la clairvoyance de son infinie vieillesse lui permit de constater et de se répéter à de nombreuses occasions que les pleurs d'enfants dans le ventre de leur mère n'étaient pas signes de ventriloquie ni de faculté divinatoire, mais annonçaient sans risque d'erreur des êtres incapables d'aimer. Cette dévalorisation de son image éveilla en elle toute la pitié qu'elle s'aperçut de voir à son fils. Amaranta, dont la dureté de cœur l'épouvantait si fort et dont l'amertume concentrée l'affligeait, lui apparut au contraire, à la faveur de cette ultime révision, comme la femme la plus aimante qui eût jamais existé, et elle comprit avec une lucidité attendrie que les injustes tourments qu'elle avait fait subir à Pietro Crespi ne lui avaient pas été dictés par quelque désir de vengeance, comme tout le monde le pensait, et que ce n'était pas le fiel de son amertume, comme pensait tout le monde, qu'il avait décidé à faire de la vie du colonel Gerineldo Marquez un lent martyr. Mais qu'en l'un et l'autre cas, ça avait été une lutte à mort entre un amour démesuré et une invincible lâcheté qui s'était soldée par le triomphe de cette peur irrationnelle qu'inspirait depuis toujours à Amaranta son propre cœur déchiré. C'est vers cette époque qu'Ursula commença à appeler Rebecca par son nom. Elle évoquait avec une vieille tendresse, exaltée par le repentir tardif et une soudaine admiration, ayant compris que seule Rebecca, celle qu'elle n'avait jamais nourrie de son lait mais qui mangeait la terre de la terre et la chaux des murs, celle dans les veines de qui ne coulait pas le même sang qu'en ses veines mais le sang inconnu de gens inconnus dont les ossements continuaient à caqueter dans leur tombe, cette Rebecca au cœur impatient, au ventre avide, avait été la seule à posséder cet implacable courage qu'elle avait tant espéré trouver dans sa propre progéniture.
« Rebecca !»
disait-elle en tâtonnant le long des murs.
« Comme nous avons été injustes envers toi !»
À la maison, on se borna à penser qu'elle radotait, surtout depuis qu'il lui prit de se promener avec le bras droit levé comme l'archange Gabriel. Fernanda eut néanmoins conscience qu'il y avait comme un soleil de grande lucidité dans l'ombre épaisse de ce délire, car Ursula était capable de dire sans hésiter combien d'argent on avait dépensé à la maison durant l'année écoulée. Amaranta eut presque la même idée le jour où elle vit sa mère à la cuisine en train de remuer la soupe dans une marmite, s'écrier soudain, ignorant qu'on l'écoutait, que le moulin à maïs acheté jadis au premier gitan et qui avait disparu bien avant que José Arcadio n'eût fait 65 fois le tour du monde, se trouvait encore chez Pilar Ternera. Bientôt centenaire elle aussi, mais robuste et agile malgré son incroyable obésité qui faisait peur aux enfants, comme autrefois son rire effrayait les colombes, Pilar Ternera ne fut pas surprise de voir combien Ursula avait deviné juste, car sa propre expérience commençait à lui indiquer que vieillesse en éveil permet de mieux discerner les choses que toutes les investigations dans les cartes. Cependant, du jour où Ursula se rendit compte qu'elle n'avait pas eu le temps de bien consolider la vocation de José Arcadio, elle se laissa abattre par la consternation. Elle commença à commettre certaines erreurs en voulant voir avec les yeux des choses que l'intuition lui permettait de distinguer avec plus de clairvoyance. Un matin, croyant que c'était de l'eau de fleurs, elle versa sur la tête de l'enfant le contenu d'un encrier. Sa manie de fourrer son nez partout fut à l'origine de tant de disputes et d'incidents qu'elle se sentit toute perturbée par la mauvaise humeur qu'on déversait sur elle. Et elle essaya de se délivrer de ces ténèbres qui avaient fini par s'enrouler autour d'elle comme une camisole tissée par une araignée géante. C'est alors que lui vint à l'esprit que sa maladresse ne constituait pas la première victoire de la décrépitude et de l'obscurité, mais une défaillance du temps. Elle se disait qu'autrefois, quand le bon Dieu ne trichait pas avec les mois et les années comme les Turcs lorsqu'ils mesuraient une aune de percale, les choses étaient différentes. Maintenant, non seulement les enfants grandissaient plus vite, mais les sentiments eux-mêmes évoluaient d'autre manière. À peine Remedios la belle était-elle montée au ciel corps et âme que déjà, sans plus d'égard, Fernanda s'en allait ronchonner dans son coin parce qu'elle avait emporté les draps. À peine les cadavres des Aureliano s'étaient-ils refroidis dans leur tombe que, sans plus attendre, Aureliano le second avait de nouveau illuminé la maison remplie d'ivrognes qui jouaient de l'accordéon et barbotaient dans le champagne, comme si ce n'étaient pas des chrétiens mais des chiens qui venaient de mourir. Et comme si cette maison de fous, qui avait coûté tant de migraines et tant de petits animaux en caramel, était prédestinée à devenir la décharge publique de toutes les perditions. Se remémorant tout cela, tandis qu'on préparait la malle de José Alcadillo, Ursula se demandait s'il n'était pas préférable qu'elle se couchât une fois pour tout au fond de sa sépulture et qu'on jetât de la terre sur elle. Et, sans peur, elle demandait à Dieu s'il croyait en vérité que les gens étaient en fer pour supporter tant de peines et de mortifications. Et, de demande en demande, elle ne faisait qu'accroître son propre scandale, et se sentait l'irrépressible envie de se laisser aller à dégoiser comme un amerloc, de se permettre enfin un instant de rébellion, l'instant si souvent désiré et tant de fois différé, de se mettre à la résignation quelque part et de se ficher de tout une bonne fois, et de se soulager le cœur des tonnes et des tonnes de gros mots qu'elle avait dû ravaler durant tout un siècle de longue patience.
« Carajo ! »
s'écria-t-elle. Amaranta, qui commençait à disposer les vêtements dans la malle, crut qu'un scorpion l'avait piqué.
« Où est-il ? »
demanda-t-elle alarmée.
« Quoi ? Eh bien, la bestiole !»
expliqua Amaranta. Ursula se posa un doigt à l'endroit du cœur.
« Ici ?»
répondit-elle.
Un jeudi, à 2 heures de l'après-midi, José Alcadillo partit pour le séminaire. Par la suite, Ursula devait toujours l'évoquer comme elle l'imagina alors en lui disant adieu, tout languide et sérieux, s'abstenant de verser une seule larme comme elle le lui avait appris, étouffant de chaleur dans son costume en velours côtelé vert, à boutons de cuivre et avec son ruban à midonnet autour du cou. Il laissa la salle à manger tout imprégnée de la pénétrante odeur de fleurs qu'elle lui mettait sur la tête pour pouvoir le suivre à la trace dans la maison. Tout le temps que dura le déjeuner d'adieu, la famille dissimula sa nervosité sous des apparences enjouées et applaudit avec enthousiasme exagéré aux bons mots du père Antonio Isabel. Mais quand on emporta la malle doublée de velours à coin d'argent, ce fut comme si on avait sorti de la maison un cercueil. Le seul à refuser de prendre part aux adieux fut le colonel Aureliano Buendía.
« Il nous manquait plus que ça comme emmerdement !»
bougonna-t-il.
« Un pape !»
3 mois plus tard, Aureliano le second et Fernanda emmenèrent Mémé en pension et s'en revinrent avec un clavecin qui prit la place du piano mécanique. C'est vers cette époque qu'Amaranta se mit à tisser son propre linceul. La fièvre de la banane était tombée, les anciens habitants de Macondo étaient refoulés et coincés par les nouveaux venus et se raccrochaient péniblement aux précaires moyens d'existence d'autrefois, réconfortés malgré tout par l'impression d'avoir survécu à quelque naufrage. À la maison, on continua de recevoir des invités à déjeuner, mais en réalité il fallut attendre plusieurs années plus tard le départ de la compagnie bananière pour voir rétablies les anciennes habitudes de vie. On assista cependant à des changements radicaux dans le sens traditionnel de l'hospitalité, car c'était désormais Fernanda qui imposait ses lois. Ursula se trouvant reléguée dans ses ténèbres et Amaranta tout absorbée dans la confection de son suaire. L'apprentie souveraine de jadis eut toute liberté de sélectionner les convives et de les soumettre aux normes rigides que lui avaient inculquées ses propres parents. Sa sévérité transforma la maison en bastion de belles manières retrouvées, dans un village convulsionné par la vulgarité avec laquelle les étrangers dilapidaient leur rapide fortune. Pour elle, il n'était pas besoin de chercher plus loin.
Les gens de bien étaient ceux qui n'avaient rien à voir avec la compagnie bananière. Jusqu'au jour où son propre beau-frère, José Arcadio le second, fut victime de son ardeur discriminatoire parce qu'il avait de nouveau adjugé ses magnifiques coqs de combat et, dans l'enthousiasme bouillonnant de la première heure, s'était embauché comme contremaître à la compagnie bananière. « Tant qu'il aura la gale des étrangers, qu'il ne remette plus les pieds dans cette maison !» dit Fernanda. L'austérité imposée à la maison devint telle qu'Aureliano le second, en définitive, se sentit beaucoup plus à l'aise chez Petra Cotes. Tout d'abord, sous prétexte de décharger son épouse d'une partie de ses soucis, il y transféra ses orgies. Ensuite, sous prétexte que les bêtes étaient en train de perdre de leur fécondité, il y transporta étables et écuries. Pour finir, sous prétexte qu'il faisait moins chaud chez sa concubine, il y déménagea le petit bureau où il s'occupait de ses affaires. Quand Fernanda prit conscience qu'elle était une veuve dont le mari n'était pas encore mort, il était déjà trop tard pour revenir à l'ancien état de choses. Aureliano le second venait à peine manger à la maison, et les quelques apparences qu'il continuait à sauvegarder, comme celle de dormir à côté de son épouse, ne suffisaient plus à convaincre personne. Une nuit, par mégarde, le petit matin le surprit dans le lit de Petra Cotes. Fernanda, contrairement à son attente, ne lui adressa pas le moindre reproche et ne poussa pas le plus léger soupir de ressentiment, mais, ce même jour, lui fit expédier chez sa concubine ses deux malles pleines de vêtements. Elle les lui fit parvenir en plein jour, avec ordre de les acheminer par le milieu de la rue afin que tout le monde les vît, pensant que son mari égaré ne pourrait supporter pareille honte et s'en reviendrait tête basse au bercail. Mais ce geste héroïque fut une preuve supplémentaire, s'il en était besoin, qu'elle méconnaissait non seulement le caractère de son mari, mais la nature profonde d'une communauté qui n'avait rien à voir avec celle dont avaient fait partie ses parents, car tous ceux qui virent passer les mâles se dirent que c'était là, en fin de compte, l'issue normale d'une histoire dont nul n'ignorait plus les intimes détails, et quant à Aureliano le second, il célébra cette liberté offerte par un festin qui dura 3 jours. Pour encore mieux désavantager l'épouse, cependant que celle-ci amorçait une mauvaise maturité dans ses sombres vêtements ecclésiastiques, avec ses médaillons anachroniques et son orgueil déplacé, la concubine paraissait regorgée d'une seconde jeunesse, boudinée dans de somptueuses toilettes en soie naturelle, les yeux tigrés par le feu de la revendication. Aureliano le second se rendit de nouveau à elle avec la fougue de l'adolescence, comme autrefois quand Petra Cotes ne l'aimait pas pour lui-même, mais parce qu'elle le confondait avec son frère jumeau et que, couchant avec les deux à la fois, elle pensait que Dieu lui avait octroyé la bonne fortune d'avoir un homme qui faisait l'amour comme deux. Cette passion retrouvée s'avérait si pressante qu'en maintes occasions, alors qu'il s'apprêtait à manger, il se regardait dans les yeux et, sans rien dire, reposaient les couvercles sur les plats pour s'en aller dans leur chambre, mourir de faim et d'amour. Inspiré par tout ce qu'il avait vu au cours des visites qu'il avait furtivement rendues aux matrones françaises, Aureliano le second acheta à Petra Cotes un lit à baldaquin archiépiscopal, mit des rideaux de velours aux fenêtres, et couvrit le plafond et les murs de la chambre de grands miroirs en cristal de roche. On le vit alors plus bambocheur et gaspilleur que jamais. Par le train qui arrivait chaque jour sur les 11 heures, il recevait des caisses et toujours plus de caisses de champagne et de brandy. En revenant de la gare, il entraînait vers une bamboche improvisée quiconque se trouvait sur son chemin, natif du village ou étranger, connu ou inconnu, sans distinction d'aucune sorte. Ne vit-on pas jusqu'au fuyant Mr. Brown, qui ne savait répartir qu'en langue étrangère, se laissait séduire par les signes tentateurs que lui adressait Aureliano le second, et, à plusieurs reprises, se saouler à mort au domicile de Petra Cotes, et faire en sorte que les féroces bergers allemands qui le suivaient partout se missent à danser sur des airs texans que lui-même mâchonnait n'importe comment au rythme de l'accordéon.
« Hors de mon chemin, et bonne de vache!
beuglait Aureliano le second au paroxysme de la fête.
« Eh, place, la vie est si courte !»
Jamais il n'eut meilleure mine, jamais il ne fut tenté, mais jamais la reproduction de ces animaux n'atteignit des proportions aussi énormes. Au cours de ces interminables festins, on sacrifiait tant de têtes de bétail, tant de porcs et de volailles, que la terre du patio devint noire et fangeuse à cause de tout ce sang versé. Ce n'était plus qu'un éternel amoncellement d'os et de tripes, un dépotoir où l'on jetait les restes et les détritus, et il fallait à tout moment allumer des cartouches de dynamite pour empêcher les urubus de venir arracher les yeux des convives. Aureliano le second devint gros et gras, violacé, tout tortufié, en raison d'un appétit à peine comparable à celui de José Alcadillo lorsqu'il s'en revint de son tour du monde. Le prestige de sa gloutonnerie surhumaine, de son incommensurable prodigalité, de son hospitalité sans précédent, franchit les limites du Marigo et attira les goinfres parmi les mieux qualifiés du littoral. De toutes parts débarquèrent de fabuleux baffreurs, venus participer au fantastique tournoi de résistance et de capacité qui s'organisait chez Petra Cotes. Aureliano le second demeura le champion incontesté de la mangeaille jusqu'à ce malheureux samedi où apparut Camila Sagastume, femelle totémique qu'on connaissait dans le pays sous le bon nom de l'éléphante. Le duel se prolongea jusqu'au mardi à l'aube. Au bout des premières 24 heures, ayant ingurgité une génisse accompagnée de manioc, d'igname et de bananes frites, sans compter une caisse et demie de champagne, Aureliano le second tenait sa victoire pour assurer. Il faisait montre de plus d'enthousiasme et d'entrain que son imperturbable adversaire, dont le style de toute évidence était davantage d'un professionnel, mais par là même touchait moins le public bigarré que la maison avait peine à contenir. Cependant qu'Aureliano le second dévorait à belles dents, emporté par la soif du triomphe, l'éléphante sectionnait sa viande avec une science de chirurgien et la mangeait sans se presser, avec même un certain plaisir. Elle était massive et gigantesque, mais chez elle la tendresse de la féminité l'emportait sur la colossale corpulence, et son visage était si beau, ses mains si fines et soignées, son charme personnel si irrésistible qu'au moment où il la vit entrer dans la maison, Aureliano le second confia à sa voix basse qu'il aurait préféré que le tournoi se fît au lit plutôt qu'à table. Plus tard, lorsqu'il la vit venir à bout d'un cuisseau de veau sans enfreindre une seule fois les bonnes manières, il affirma très sérieusement que, d'un certain point de vue, ce délicat, fascinant et insatiable proboscidien représentait pour lui la femme idéale. Il ne se trompait pas. Sa réputation de grand rapace charognard qui la précédait en tout lieu ne reposait sur rien. Elle n'avait rien d'une étrangleuse de bœufs vivants, comme on racontait, et elle n'était pas davantage la femme à barbe d'un cirque grec, mais dirigeait un cours de chant. Elle avait appris à manger ainsi alors qu'elle était déjà une respectable mère de famille, en cherchant une méthode qui permit à ses enfants de mieux s'alimenter, non pas en stimulant artificiellement l'appétit, mais par une absolue tranquillité d'esprit. Sa théorie, qui se vérifia dans la pratique, reposait sur le principe qu'un être parfaitement en règle avec sa conscience pouvait manger sans trêve jusqu'à ce que la fatigue le vainquît. De sorte que ce fut pour des raisons morales et non par intérêt sportif qu'elle abandonna foyer et cours de chant pour aller se mesurer à un homme dont la réputation de grand mangeur sans principe avait fait le tour du pays. Dès l'instant où elle le vit pour la première fois, elle comprit que ce qui flancherait chez Aureliano le second, ce n'était point son estomac mais son caractère. Au bout de la première nuit, tandis que l'éléphante ne se départissait pas de son impassibilité, Aureliano le second s'épuisait à tant rire et à tant parler. Ils dormirent 4 heures. Au réveil, chacun avala le jus de 50 oranges, 8 litres de café et une trentaine d'œufs crus. Au matin du deuxième jour, Au bout de longues heures de veille, après avoir liquidé deux ports entiers, un régime de bananes et quatre caisses de champagne, l'éléphante soupçonna Aureliano le second d'avoir découvert, sans s'en apercevoir, la même méthode qu'elle, mais par le biais absurde d'une totale irresponsabilité. Il s'avérait donc plus dangereux qu'elle ne l'avait pensé. Pourtant, lorsque Petra Cotes apporta sur la table deux dindons rôtis, Aureliano le second n'était qu'à un doigt de la congestion. « Si vous n'en pouvez plus, arrêtez-vous de manger !» lui dit l'éléphante. « Restons à égalité !» Elle le proposait de bon cœur, comprenant qu'elle non plus ne pouvait avaler une bouchée supplémentaire à cause du remords qu'elle avait de contribuer ainsi à la mort de son adversaire. Mais Aureliano le second interpréta son attitude comme un nouveau défi et se bourra la gorge de dindon, bien au-delà de son incroyable capacité. Il perdit connaissance, il piqua du nez dans le plat où ne restaient que les os, la babine écumante comme un chien s'étouffant dans les râles de l'agonie. Au milieu des ténèbres, il se sentit poussé du haut d'une tour dans un précipice sans fond et, dans un dernier éclair de lucidité, il se rendit compte qu'au bas de cette interminable chute l'attendait la mort.
« Qu'on m'emmène auprès de Fernanda !»
eut-il encore la force de prononcer. Les compagnons qui le déposèrent chez lui crurent qu'il avait tenu la promesse faite à son épouse de ne pas mourir dans le lit de sa concubine. Petra Cotes avait ciré les bottines vernies qu'il souhaitait chausser dans son cercueil, et elle se préoccupait déjà de chercher quelqu'un pour les lui porter quand on vint la prévenir qu'Aureliano le second était hors de danger. Il fut effectivement rétabli en moins d'une semaine, et 15 jours plus tard, il célébra par un festin sans précédent ce jour de gloire où il lui avait été donné de survivre. Il continua d'habiter chez Petra Cotes, mais rendait visite quotidiennement à Fernanda et restait parfois à déjeuner en famille, comme si le destin s'était plu à inverser les situations et en avait fait l'époux de sa concubine et l'amant de sa propre épouse. Ce fut une manière de soulagement pour Fernanda. Dans les chagrins de l'abandon, ses seules distractions étaient les exercices de clavecin à l'heure de la sieste et les lettres de ses enfants. Dans les missives détaillées qu'elle leur envoyait tous les 15 jours, il n'y avait pas une ligne de vérité. Elle leur dissimulait ses peines. Elle leur passait sous silence la mélancolie d'une maison qui, malgré la lumière sur les bégonias, malgré la chaleur suffocante de 2 heures de l'après-midi, malgré le vent de fête qui soufflait par fréquentes rafales depuis la rue, de jour en jour ressemblait davantage à la demeure coloniale de ses parents. Fernanda errait dans sa solitude entre 3 fantômes vivants et le fantôme mort de José Arcadio Buendía qui s'en venait parfois s'asseoir dans la pénombre du salon, prêtant à toute une attention sourcilleuse tandis qu'elle jouait du clavecin. Le colonel Aureliano Buendía n'était plus qu'une ombre. Depuis sa dernière sortie, où il était allé proposer une guerre sans avenir au colonel Rinaldo Marquez, c'était à peine s'il quittait son atelier pour aller pisser sous le châtaignier. Il ne recevait d'autres visites que celles du coiffeur, toutes les 3 semaines. Il se nourrissait de ce que voulait bien lui apporter Ursula, une fois par jour, et bien qu'il continuât de fabriquer ses petits poissons en or avec la même ferveur qu'autrefois, il cessa de les vendre dès qu'il sut que les gens ne les achetaient pas comme bijoux, mais comme des reliques historiques. Il avait fait un grand feu dans le patio avec les poupées de Remedios qui avaient décoré sa chambre depuis le jour de leur mariage. Ursula, à laquelle rien n'échappait, se rendit compte de ce que son fils était en train de faire, mais ne put l'empêcher.
« Tu as une pierre à la place du cœur !»
lui dit-elle. « Il ne s'agit pas d'une affaire de cœur, » lui répliqua-t-il.
« La chambre est en train d'être envahie par les mythes. »
Amaranta tissait son suaire. Fernanda ne comprenait pas pourquoi il lui arrivait d'écrire des lettres à Mémé et même de lui envoyer des cadeaux, alors qu'elle ne voulait pas dire un mot au sujet de José Arcadio.
elle mourra sans savoir pourquoi,
répondit Amaranta lorsqu'elle lui posa la question par l'entremise d'Ursula, et cette réponse sema dans son cœur une énigme qu'elle ne parvint jamais à élucider. Grande, pareille à une longue tige écanguée aux taines, toujours vêtue d'abondants jupons bouillonnants de dentelle, avec cet air distingué qui résistait aux années et aux mauvais souvenirs, Amaranta semblait porter au front la croix de cendre de la virginité. En fait, c'était à la main qu'elle la portait, sous la bande noire qu'elle n'ôtait même pas pour dormir et qu'elle lavait et repassait elle-même. À broder son linceul, la vie s'en allait. On aurait dit qu'elle y travaillait dans la journée et défaisait son ouvrage la nuit venue, non dans l'espoir de vaincre ainsi sa solitude, mais tout au contraire pour l'entretenir. Ce qui préoccupait le plus Fernanda durant ces années d'abandon, c'était que Mémé s'en vint passer ses premières vacances à la maison sans y trouver Aureliano le second. La congestion mit fin à ses craintes. Lorsque Mémé fut de retour, ses parents s'étaient mis d'accord non seulement pour faire croire à la fillette qu'Aureliano le second était resté un mari tout à fait domestiqué, mais pour empêcher qu'elle ne remarquât la tristesse de la maison. Chaque année, pendant 2 mois, Aureliano le second jouait son rôle d'époux modèle et organisait de petites fêtes où l'on servait des glaces, des gâteaux secs et qu'égayaient les collières enjouées et pleines de vie en se mettant au clavecin. Il était déjà devenu évident qu'elle n'avait hérité que très peu du caractère de sa mère. On aurait dit plutôt une seconde version d'Amaranta, à l'époque où cette dernière ne connaissait pas encore l'amertume et semait une joyeuse panique dans la maison avec ses pas de danse, quand elle avait 12 ou 14 ans, avant cette passion secrète pour Pietro Crespi qui, dans son cœur, marqua un changement de cap définitif. Mais à la différence d'Amaranta, et contrairement à tous, Mémé ne paraissait pas encore promise au destin solitaire de la famille et avait l'air parfaitement accordée au monde, même quand elle s'enfermait au salon vers 2 heures de l'après-midi pour travailler son clavecin avec une discipline inflexible. On devinait très clairement qu'elle se plaisait dans cette maison, qu'elle passait toute l'année à rêver au joli chahut d'adolescente rameuté par son arrivée, et qu'elle n'était pas très éloignée de partager la vocation de fêtard et le sens de l'hospitalité débordant de son père. Le premier signe de cet héritage malheureux apparut lors des 3e grandes vacances, le jour où Mémé débarqua à la maison en compagnie de 4 religieuses et de 68 camarades de classe qu'elle avait invités à venir passer une semaine dans sa famille, de sa propre initiative et sans prévenir personne.
« Quel désastre !»
gémit Fernanda.
« Cet enfant est aussi barbare que son père !»
Il fallut emprunter des lits et des hamacs aux voisins, faire 9 services pour les repas, fixer des horaires pour l'occupation des bains et réussir à se faire prêter 40 de tabourets pour que les fillettes en uniforme bleu et bottillon d'homme ne passassent toute la journée à papillonner en tous sens. Cette invitation fut un fiasco, car les turbulentes collégiennes avaient à peine fini de prendre leur petit déjeuner qu'il fallait déjà entamer le premier service du déjeuner et ainsi de suite jusqu'au dîner, si bien que, dans la semaine, elles ne purent faire qu'une seule promenade jusqu'aux plantations. À la tombée de la nuit, les religieuses étaient épuisées, incapables de se mouvoir, de donner un ordre de plus, alors que le troupeau d'adolescentes, infatigables, était encore dans le patio à chanter d'insipides couplets scolaires. Un jour, elle faillit renverser Ursula, qui s'obstinait à vouloir se rendre utile là où elle gênait précisément le plus. Un autre jour, ce furent les religieuses qui firent un esclandre, parce que le colonel Aureliano Buendia s'en vint pisser sous le châtaignier sans se préoccuper que les pensionnaires étaient dans le patio. Amaranta faillit semer la panique quand une des sœurs fit irruption dans la cuisine au moment où elle salait la soupe et ne trouva rien d'autre à lui demander que la nature de cette poudre blanche qu'elle mettait par poignée.
« De l'arsenic !»
répondit Amaranta. Le soir de leur arrivée, voulant se rendre au lieu d'aisance avant de se coucher, les jeunes étudiantes créèrent un tel embouteillage qu'à 1 heure du matin, les toutes dernières étaient encore en train de rentrer. Fernanda fit alors l'acquisition de 62 pots de chambre, mais ne réussit qu'à transformer le problème nocturne en problème matinal, car on put voir à l'aube, devant les lieux, une longue file de jeunes filles, chacune tenant son pot à la main et attendant son tour de le vider. Hormis quelques-unes qui eurent des poussées de fièvre et plusieurs dont les piqûres de moustiques s'infectèrent, la plupart d'entre elles, face aux difficultés les plus pénibles, firent montre d'une résistance à toute épreuve, et on les vit même, à l'heure les plus chaudes, flâner dans le jardin. Quand elles finirent par s'en aller, les fleurs étaient saccagées, les meubles brisés et les murs tout couverts de dessins et d'inscriptions, mais Fernanda fut si soulagée de les avoir partis qu'elle leur pardonna leur ravage. Elle rendit les lits et les tabourets prêtés et conserva les 62 pots de chambre dans le cabinet de Melquiades. Cette pièce contenait fermée, autour de laquelle tournait autrefois la vie spirituelle de la maison, fut connue dès lors sous le nom de « la chambre aux pots ». Pour le colonel Aureliano Buendía, c'était d'ailleurs l'appellation qui lui convenait le mieux, car, tandis que le reste de la famille continuait à s'émerveiller de ce que la pièce de Melquiades resta préservée de la poussière et de la destruction, lui-même la voyait transformée en une véritable poubelle. De toute manière, il lui importait peu de savoir qui avait raison, et il n'apprit le nouveau destin de cette chambre qu'incidemment parce que Fernanda le dérangea dans son travail tout un après-midi en passant et repassant pour aller ranger ses pots. C'est vers cette époque que José Arcadio le second refit son apparition à la maison. Il filait tout droit sous la véranda sans saluer personne et allait s'enfermer dans l'atelier où il conversait avec le colonel. Bien qu'elle ne pût le voir, Ursula analysait le bruit que faisaient les talons de ses bottes de contremaître et était surprise de constater quel fossé impossible à combler le séparait à présent du reste de la famille, même de son frère jumeau avec lequel, enfant, il jouait à inventer d'ingénieux stratagèmes pour qu'on les confondît, mais avec lequel il n'avait déjà plus aucun trait commun. Il était tout en longueur, avec cet air solennel, une attitude pensive, une tristesse de sarrasin et comme un éclat lugubre sur son visage couleur d'automne. Il était celui qui ressemblait le plus à sa mère, sainte Sophie de la Piété. Ursula se reprochait d'avoir tendance à l'oublier quand elle parlait de la famille, mais lorsqu'elle le sentit à nouveau à la maison et qu'elle remarqua que le colonel l'admettait dans son atelier pendant les heures de travail, elle se reprit à examiner ses vieux souvenirs et acquit la conviction qu'à certains moments de leur enfance, il s'était interverti avec son frère jumeau, car c'était bien lui et non ce dernier qui aurait dû s'appeler Aureliano. Personne ne connaissait les détails de son existence. À une certaine époque, on sut qu'il n'avait pas de domicile fixe, qu'il élevait des coqs de combat chez Pilar Ternera et qu'il y restait parfois dormir. Mais en fait, il passait presque toutes ses nuits dans les chambres des matrones venues de France. Il allait à la dérive, sans affection, sans ambition, comme une étoile filante dans le système planétaire d'Ursula. En vérité, José Arcadio le second n'était plus membre de la famille et ne devait appartenir à aucune autre, depuis cette aube lointaine où le colonel Gerineldo Marquez l'avait emmené à la caserne, non pour qu'il assistât à une exécution, mais afin que restât gravé dans sa mémoire, pour le restant de ses jours, ce sourire triste et un peu moqueur du fusillé. Ce n'était pas seulement son plus ancien souvenir, mais le seul qu'il gardait de son enfance. L'autre, celui d'un vieillard qui portait un gilet anachronique et un chapeau en aile de corbeau et racontait des merveilles devant une fenêtre par où passait un jour aveuglant, il ne réussissait à le situer dans aucune époque. Celui-ci était un souvenir incertain, tout à fait dépourvu d'enseignements ou de nostalgie, au contraire du souvenir du fusillé qui avait réellement décidé de l'orientation de sa vie et qui lui revenait de plus en plus nettement en mémoire au fur et à mesure qu'il vieillissait, comme si le cours du temps l'en rapprochait. Ursula essaya de se servir de José Arcadio le second pour faire sortir le colonel Aureliano Buendía de sa retraite. « Convainc-le d'aller au cinéma, » lui disait-elle.
Même si les films ne lui plaisent pas, il aura du moins l'occasion de respirer l'air pur. »
Mais elle ne tarda pas à se rendre compte qu'il demeurait aussi insensible à ses prières qu'aurait pu l'être le colonel, et qu'une même cuirasse les rendait imperméables à toute forme d'affection. Bien qu'elle ne sût jamais, et que tout le monde restât sans savoir de quoi ils pouvaient bien parler au cours de leurs apartés prolongés dans l'atelier, il lui vint à l'esprit qu'ils étaient bien les deux seuls membres de la famille à avoir l'air unis par leurs affinités. La vérité était que José Arcadio le second lui-même ne serait pas parvenu à faire sortir le colonel de sa retraite. Avec l'invasion des collégiennes, les limites de sa patience avaient été dépassées. Sous prétexte que la chambre nuptiale était livrée au mythe malgré la destruction des affriolantes poupées de Remedios, il suspendit un hamac dans l'atelier qu'il ne quitta désormais que pour aller faire ses besoins au jardin. Ursula ne parvenait pas à avoir avec lui la conversation la plus banale. Elle savait qu'il ne jetait pas un seul coup d'œil sur les plats qu'elle lui servait, mais qu'il les plaçait à un bout de son établi afin de pouvoir terminer l'un de ses petits poissons, et il lui importait peu que sa soupe fût figée ou que la viande devint froide. Il se montra de plus en plus dur à compter du jour où le colonel Reynaldo Marquez refusa de le seconder dans la guerre sénile qu'il voulait déclencher. Il se renferma en lui-même à double tour et, dans la famille, on finit par penser à lui comme à un mort. On ne lui connut plus aucune réaction humaine jusqu'à ce 11 octobre où il sortit sur le pas de la porte pour assister dans la rue au défilé d'un cirque. Pour le colonel Aureliano Buendía, cette journée avait été identique à toutes celles de ces dernières années. À 5 heures, le bruit des crapauds et des grillons de l'autre côté du mur l'avait réveillé. Il tombait une petite pluie fine qui persistait depuis le samedi précédent, mais pour le savoir, il n'aurait pas eu besoin d'entendre son minuscule chuchotement dans les feuilles du jardin. De toute façon, il l'aurait senti au froid qui le pénétrait jusqu'aux os. Il était emmitouflé, comme toujours, dans sa couverture de laine, et avait passé ses longs caleçons de cotonnade qu'il continuait à porter par commodité, bien qu'en raison de leur poussiéreux anachronisme, il les appela lui-même des « caleçons conservateurs ». Il enfila ses pantalons étroits, sans en nouer les gants, de même qu'il ne mit pas à son col de chemise le bouton en or qu'il portait toujours, car il avait l'intention de prendre un bain. Puis il se couvrit la tête de sa couverture comme d'une cagoule, peigna avec ses doigts sa moustache dégoulinante et s'en fut pisser au jardin. Il s'en fallait encore de beaucoup pour qu'émergeât le soleil et José Arcadio Buendía dormait toujours sous son auvent de palmes pourries par la pluie. Il ne l'avait jamais vu et il ne le vit pas davantage cette fois-ci, pas plus qu'il n'entendit la phrase incompréhensible que lui adressa le spectre de son père, réveillé en sursaut par le jet d'urine fumante qui lui éclaboussait les souliers. Il remit le bain plus tard, non pas à cause du froid et de l'humidité, mais à cause de ce brouillard d'octobre qui l'oppressait. De retour à l'atelier, il perçut l'odeur de cierge mouché des fourneaux qu'était en train d'allumer Sainte Sophie de la Piété et attendit à la cuisine que le café fût chaud pour en emporter un bol sans sucre. Comme tous les matins, Sainte Sophie de la Piété lui demanda quel jour de la semaine on était et il lui répondit qu'on était mardi le 11 octobre. À la vue de cette femme si impavide, dorée par les reflets du feu, laquelle, à cet instant précis, pas plus qu'à tout autre moment de sa vie, ne paraissait exister tout à fait, il se rappela tout à coup qu'un 11 octobre, en pleine guerre, il avait été réveillé par la conviction soudaine que la femme qui était couchée avec lui était morte. Elle l'était bel et bien. Et il ne pouvait oublier cette date parce qu'elle aussi lui avait demandé une heure auparavant quel jour on était. Malgré cette évocation, il ne mesura pas, cette fois encore, combien les présages l'avaient abandonné, et tandis que le café bouillait, il continua par pure curiosité, mais sans le plus infime risque de nostalgie, à penser à cette femme dont il ne sut jamais le nom et dont il ne vit jamais le visage en vie, car elle était parvenue jusqu'à son hamac en trébuchant dans l'obscurité. Pourtant, Dans le flou de tant de femmes qui firent intrusion dans sa vie de semblable manière, il omit de se souvenir que ce fut elle qui, dans le délire de leur première rencontre, faillit naufrager dans ses propres larmes et, une heure à peine avant de mourir, lui avait juré de l'aimer jusqu'à sa mort. Il ne songea plus à elle, non plus qu'à aucune autre, pénétra dans son atelier avec son bol fumant et fit la lumière pour compter les petits poissons en or qu'il conservait dans une écuelle de fer blanc. Il y en avait 17. Depuis qu'il avait décidé de ne plus les vendre, il continuait à fabriquer 2 petits poissons par jour, et lorsqu'il arrivait au nombre de 25, il les fondait à nouveau dans le creuset pour se remettre à les fabriquer à nouveau. Il s'absorba toute la matinée dans son travail sans penser à rien, sans se rendre compte qu'à 10 heures il pleuvait de plus belle, sans entendre quelqu'un passer dans l'atelier en criant qu'on fermât bien les portes si l'on ne voulait pas que la maison fût inondée, et sans avoir conscience de sa propre existence jusqu'à ce qu'Ursula fît son entrée portant le déjeuner et éteignant la lumière.
« Quelle pluie !»
dit Ursula.
« Octobre !»
répondit-il. Il prononça ce mot sans lever les yeux du premier petit poisson de la journée dont il était en train de sertir les yeux de rubis. Ce n'est que lorsqu'il l'eut achevé qu'il le plaça avec les autres dans l'écuelle et se mit à boire sa soupe. Puis il mangea très lentement le morceau de viande en ragoût accompagné d'oignons, de riz blanc et de tranches de bananes frites servies dans la même assiette. Son appétit ne s'altérait ni dans les meilleures ni dans les pires circonstances. Après déjeuner, il connut le malaise du désœuvrement. Par une espèce de superstition scientifique, il laissait toujours s'écouler 2 heures de digestion sans travailler, ni lire, ni se baigner, ni faire l'amour. Et cette croyance était si ancrée en lui qu'il lui arriva plusieurs fois de retarder les opérations militaires pour ne pas faire courir à ses hommes le risque d'une congestion. Il se coucha donc dans son hamac, s'occupant à ôter la cire de ses oreilles à l'aide d'un canif, et au bout de quelques minutes, s'endormit. Il rêva qu'il pénétrait dans une demeure vide aux murs tout blancs. L'impression pesante d'être le premier homme à y entrer le rendait inquiet. Dans ce même rêve, il se rappela qu'il avait rêvé la même chose la nuit précédente et au cours de nombreuses nuits de ces dernières années, et il sut que cette image se trouverait effacée de sa mémoire dès son réveil, car le rêve, dans sa récurrence, avait cette particularité qu'on ne pouvait s'en souvenir qu'à l'intérieur du même rêve. De fait, au bout d'un moment, quand le coiffeur frappa à la porte de l'atelier, le colonel Aureliano Buendia se réveilla avec l'impression qu'il s'était assoupi malgré lui pendant quelques brèves secondes et n'avait eu le temps de rêver à rien.
« Pas aujourd'hui, » dit-il au coiffeur. « On se verra vendredi. »
Il avait une barbe de 3 jours, toute mouchetée de flocons blancs, mais il ne jugeait pas nécessaire de se raser s'il devait se faire couper les cheveux le vendredi suivant, et pouvait parer à tout en même temps. Cette sieste malencontreuse l'avait mise en sueur, et le liquide collant avait réveillé les cicatrices de furoncles de ses aisselles. La pluie s'était arrêtée, mais le soleil n'avait pas encore paru. Le colonel Aureliano Buendia émit un rot sonore qui lui remit en bouche l'acidité de la soupe et qui fut pour lui comme un ordre de son organisme lui commandant de se jeter la couverture sur les épaules et de se rendre au lieu d'aisance. Il y demeura plus longtemps qu'il n'était nécessaire, accroupi au-dessus de l'intense fermentation qui montait du caisson de bois, jusqu'à ce que, par routine, il s'aperçut que l'heure était venue de reprendre son travail. Tout le temps que dura cette attente, il se rappela à nouveau qu'on était mardi et que José Alcadio le second n'était pas venu à l'atelier parce que c'était jour de paye à la compagnie bananière. Ce rappel, comme tous ses souvenirs de ces dernières années, l'amena, sans qu'il s'en rendît compte, à penser à la guerre. Il se rappela que le colonel Gerineldo Marquez lui avait promis un jour de lui procurer un cheval portant une étoile blanche au front et qu'il n'en avait jamais plus entendu parler.
Puis il dériva d'un épisode à l'autre, en ordre dispersé, se bornant à les évoquer sans porter de jugement sur aucun, car, à force de ne pouvoir fixer son esprit sur autre chose, il avait appris à penser à froid, afin que ses souvenirs inéluctables n'atteignissent plus sa sensibilité. De retour à l'atelier, il constata que l'atmosphère devenait plus sèche et résolut que c'était le moment de prendre un bain, mais Amaranta l'avait déjà devancé. Alors il commença le deuxième petit poisson de la journée. Il était en train de souder la queue quand le soleil émergea avec tant de force que son éclat craqua comme une balandre. L'air lavé par 3 jours de pluie se remplit de fourmis volantes. Il se sentit alors envie d'uriner, mais se rendit compte qu'il était en train de se retenir jusqu'à ce qu'il eût fini de dorer le petit poisson. À 4h10, il se rendit au jardin quand il entendit retentir des cuivres dans le lointain. Des battements de grosses caisses et des enfants joyeux, et pour la première fois depuis son jeune âge, il se laissa délibérément tomber dans un piège que lui tendait la nostalgie et revécut le prodigieux après-midi des gitans, quand son père l'avait emmené faire connaissance avec la glace. Sainte Sophie de la Piété quitta ce qu'elle était en train de faire à la cuisine et se précipita vers la porte d'entrée.
« C'est le cirque !»
s'écria-t-elle. Au lieu de continuer en direction du châtaignier, le colonel Aureliano Buendia se dirigea lui aussi vers la porte de la rue et se mêla aux curieux qui contemplaient le défilé. Il vit une femme toute costumée d'or sur la nuque d'un éléphant. Il vit un dromadaire mélancolique. Il vit un ours vêtu en femme de Hollande qui marquait le rythme de la fanfare avec une louche et une casserole. Il vit des clowns faire des pirouettes en queue de défilé. Et il vit à nouveau le misérable spectacle de sa solitude quand tout fut passé et qu'il ne resta plus rien à voir que la plage lumineuse de la rue, l'air rempli de fourmis volantes et quelques curieux penchés au bord du gouffre de l'incertitude. Il se rendit alors sous le châtaignier, pensant au cirque, et voulut continuer d'y penser tout en urinant, mais il n'en retrouva déjà plus trace dans ses souvenirs. Il rentra sa tête dans ses épaules comme les poussins et demeura immobile, le front contre le tronc du châtaignier. La famille ne fut au courant que le lendemain, quand Sainte Sophie de la Piété voulut se rendre au fond du jardin pour vider les ordures et eut son attention attirée par le vol du rubis qui descendait. Fin de la 13e partie de « Cent ans de solitude » de Gabriel García Márquez.